Eh bien, gloire au Seigneur. Effectivement, je remercie d'abord Pascal et Chantal pour l'invitation. Une invitation que j'ai parfois refusée pour cause de maladie et parce que les circonstances ne se prêtaient pas. Le cœur y était, mais les circonstances ne prêtaient pas que je vienne plus tôt. Et c'est avec regret, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai tellement de joie de voir l'évolution. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble, Chantal, Pascal, on a travaillé ensemble dans l'évangélisation avec l'Église, dans la croissance de l'Église, dans les missions d'évangélisation. On a fait un travail fou ensemble, hein, c'est pas compliqué. Teen Challenge aussi, hein, bon. On a fait tant de choses pour le Seigneur. Et on a eu tellement de joie, on a eu des tristesses aussi, c'est vrai, mais on a eu beaucoup de joie à servir le Seigneur. Et justement, je vais en parler aujourd'hui, que c'est dans le service qu'on a beaucoup de joie, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est particulier, l'amitié qui nous tient depuis tant d'années. Et je me réjouis de voir que si nos chemins se sont séparés à un certain moment, c'était pour le meilleur, parce que justement, il s'est formé, il a continué sa formation et il est devenu pasteur et l'Église est née ici à Boisdevillers. Et quelle joie, hein, de voir dans l'Église des frères, des sœurs qui continuent l'œuvre et que l'œuvre continue, quoi. Et c'est ce que le Seigneur a demandé dans Marc, hein. Aller par tout le monde, former des disciples, enseigner-leur et alors aller de l'avant. Donc, il faut continuer, il faut former, il faut envoyer, il faut toujours garder cette vision d'évangélisation. Mais c'est vrai que vous êtes particulier sur notre cœur. Mon épouse, vous savez, elle a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup d'espoir maintenant. Il y a eu enfin un médecin qui a pu prendre en charge l'opération. Et l'opération a très bien marché. Elle aurait pu être là ce matin, mais d'autres circonstances. On a les petits-enfants, 7 petits-enfants. Enfin, des petits-enfants, mais la plus grande a déjà 18 ans, hein. Parce qu'on fait ça en cascade, nous, hein. Alors, la dernière, elle va avoir 2 ans. Mais j'ai encore une fille à marier. Donc, vous voyez, je crois que j'aurai des petits-enfants jusqu'au moment où je vais mourir, quoi. C'est pas compliqué. Mais enfin, c'est le beau côté de la vie, quoi. Mais enfin, elle vous remet ses salutations. Et l'Église également. J'ai dit hier à l'Église que j'étais ici. Et donc, voilà, vous avez les salutations de l'Église également. Voilà, alors, oui, je suis un petit peu ému parce que, en plus, je vis depuis 10 jours dans l'émotion. Il y a plein d'événements qui se passent et d'autant plus que hier, il y a eu un événement marquant mais je vous en parlerai à la fin de la prédication. Alors, on va se centrer sur la parole de Dieu. Je vais vous parler ce matin d'un passage de l'Épître aux Philippiens. C'est une action de grâce de l'apôtre Paul, comme titre on pourrait dire, l'action de grâce qui unit Paul et l'Église aux Philippiens. Bon, le titre c'est ça, c'est l'action de grâce qui unit Paul à l'Église aux Philippiens. Alors, l'introduction, elle est assez simple. L'Église de Philippiens occupe une place particulière dans le cœur de l'apôtre Paul parce que cette Église a été fondée au cours de son deuxième voyage missionnaire. C'est la première Église fondée, vous le savez, l'Église de Philippe, c'est... Oui, les pasteurs, ils ont tout de suite la réponse. Mais donc, c'est la première Église qui a atteint l'Europe. Enfin, dans son voyage missionnaire, c'est le premier message qui atteint l'Europe et une Église va naître. Et enfin, l'évangélisation en Europe commence par l'Église de Philippe avec Lydie, hein, etc., etc. Alors, donc, cette Église est importante parce que pour nous, c'est important de savoir que en ce temps-là, déjà, il y a une propulsion de la puissance de Dieu et ça a quitté les frontières et l'Europe a été atteinte. Cette Église est jeune, très jeune, mais elle a progressé rapidement en maturité spirituelle et matérielle. Elle est l'une des premières Églises qui a soutenu l'apôtre Paul, or que beaucoup d'autres Églises ne l'avaient pas fait. Mais l'église de Philippe, eux, prennent conscience qu'ils doivent le faire, et il y aura, et nous allons voir qu'il y a tout un jeu de mots de l'apôtre Paul dans ses reconnaissances qui va se faire, et c'est important. Nous allons le voir, ça. Cette progression, cette maturité que l'église va avoir est extraordinaire. Nous verrons qu'il y a plusieurs situations qui unissent Paul à l'église de Philippe. Mais d'abord, nous allons nous centrer sur la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans Philippiens, bien sûr, chapitre 1, de 3 à 11. Je vais lire dans la Semeur, mais c'est pas grave, ça va apparaître normalement sur l'écran. Je ne sais pas si c'est la seconde traditionnelle, mais enfin, peu importe. Moi, j'ai choisi la Semeur. C'est ça qui est bien avec l'informatique, c'est que on peut choisir les versions différentes. Alors, j'ai la Bible ici, bien sûr, hein, mais ici, je vais prendre la Semeur. Mais ne vous en faites pas, c'est à peu près la même chose. Donc, Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 3 à 11. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. » Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection, entre parenthèses, tendresse, que vous apportez par Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, une vraie sensibilité, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous verrez, vous serez pur et irréprochable au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargé d'œuvres de justice, ce fruit de Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, en sous-titre, je mets les collaborateurs de Dieu, l'amour de l'Évangile. C'est important. Je pense que quand l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » La reconnaissance de l'apôtre est si réelle, si profonde, que les mots arrivent en abondance. Je rends grâce à Dieu pour votre participation à la proclamation de l'Évangile et des offrandes pour le soutien du ministère. Chers amis, dans toute cette épître, mais principalement ici dans son action de grâce, il y a une dimension extraordinaire qui ne peut pas échapper aux dirigeants d'église et aux chrétiens en général. C'est que il y a un feu dans cette église pour la proclamation de l'Évangile. Et c'est ça qui est important. Et quand l'apôtre Paul dit « Je rends grâce », eh bien on peut dire, je vais faire une exhortation, pas une étude biblique, donc dans la traduction, on pourrait dire « Je rends grâce », et le mot est traduit par « joie ». J'ai de la joie, je rends grâce à Dieu, mon cœur est dans la joie, et le mot joie convient particulièrement bien à cet épître, puisque le mot joie revient 16 fois. Or, n'oublions pas que l'apôtre Paul est en prison. Donc, il écrit de la prison, et ce mot revient 16 fois. Bien sûr, dans l'épître, il y aura des moments, l'apôtre va dire, je suis attristé pour une telle situation, mais qu'empêche que 16 fois le mot joie revient sur 4-5 chapitres. Alors, lui qui est en prison, il a des bonnes nouvelles de il entend il y a un rapport de l'église de Philippe, il est dans la joie. Il se réjouit. Est-ce que nous nous réjouissons aussi? Mais même dans notre vie, on a dit tout à l'heure, au niveau des problèmes et tout ça, on a chanté, nous sommes parfois submergés par les problèmes, c'est vrai. Mais reconnaissons que parfois, tous ces problèmes qui nous submergent, nous oublient d'être dans la joie. Et nous vivons notre vie chrétienne avec des bases solides, mais nous ne permettons plus au Seigneur d'exprimer la joie dans notre cœur. Or que le psalmiste, David, a même dans les moments les plus sombres de sa vie, arrivé encore à dire « Seigneur, je suis dans la joie ». Mais moi, c'est un domaine que j'ai parfois difficile, je vous l'avoue, hein, moi, j'ai mes faiblesses aussi, mais je vais dire, j'ai parfois difficile quand je suis submergé d'être dans la joie et de sortir de... Enfin, je suis une nature compliquée, moi, tout compte fait. Mais quand je suis submergé, je suis renfermé sur moi, j'arrive pas à extérioriser mes problèmes. Et, c'est-à-dire que mais c'est dans tous les domaines. En général, si vous me faites un cadeau, j'ai très peu d'expression. Parce que je réagis qu'un jour après ou trois semaines après. Alors les enfants sont toujours embêtés parce que il dit à mon époux, tu crois qu'il est content, ils sont cadeaux. Alors le paradoxe c'est que 15 jours après, 3 semaines, je dis ah, c'est super. Bon. Enfin, ça c'est ma nature. Je peux pas changer cette nature-là, mais ma joie vient 3 semaines après. Bon. Bon, par contre, il y a des moments où ma joie est plus spontanée, hein. J'ai souvent vu dans l'église, il y a des moments où quand on voit des âmes se convertir, des âmes délivrées, des âmes qui sont en souffrance, retrouver le sourire. J'ai suivi un couple dernièrement, enfin, depuis des mois, ils étaient acculés dans des situations infernales, avec les familles, les enfants, c'était infernal. Ils avaient perdu la joie du salut, c'était terrible. Et cette semaine, j'ai téléphoné, tout d'une fois, la joie est revenue. Alors, je me suis réjoui, et hier, je les ai vus, j'ai dit, j'étais tellement heureux de vous entendre rire. Vous voyez? Enfin, bon, je m'écarte un peu. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Alors ici, il y a un croyant qui avait fait un rapport, je vais essayer d'être simple, mais il avait fait un rapport il y a plus de 100 ans. Et dans sa réflexion, il disait ceci, « Je suis absolument persuadé, écrivait-il, qu'un chrétien n'est pas dans une bonne condition spirituelle s'il ne cherche pas d'une manière ou d'une autre à amener une âme à Christ. Et de la même manière, une assemblée n'est pas dans une bonne condition si elle n'a pas cette sensibilité d'amour pour l'évangélisation. » Je trouvais ça vraiment important. Nous devrions tous être à l'affût des âmes. Une telle disposition donnerait des résultats extraordinaires. N'en doutons pas. Même si nous nous satisfons de vivre semaine après semaine, mois après mois, sans même qu'une seule âme se convertisse, dans ce cadre-là, notre état devient pitoyable. En somme, si nous perdons de vue le salut des âmes, que nous venons à l'église, on se fait plaisir, tout ça, mais si nous perdons la vision du salut des âmes, eh bien, nous tombons dans un état pitoyable spirituel. C'est important. Il ne sert à rien de dire, mais Dieu n'a pas besoin de moi. Il peut se choisir quelqu'un d'autre. Il y a d'autres élus. Moi, je ne me sens pas concerné. Il suscitera bien quelqu'un d'autre pour faire l'un son œuvre. Est-ce que c'est juste ça? Moi, je ne suis pas convaincu. Mais une chose que je sais, mais nous perdrons la dignité, le privilège et la récompense du travail. N'est-ce rien de se priver de l'insigne d'honneur d'être collaborateur de Dieu? Chers amis, l'Église de Philippe avait directement compris que l'évangélisation était une priorité dans l'Église. Et pourtant, il y a peu de situations où nous pouvons mieux ressentir ce privilège et dans la prière unie et fervente. À se servir, chaque croyant peut se joindre. Tous peuvent ajouter leur amen sincère. Et n'avez-vous pas remarqué que quand l'assemblée s'engage dans la prière et l'unité pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, il en résulte un flot de bénédictions. C'est ce que j'ai toujours constaté, disait-il, il y a un siècle d'ici. Et bien d'autres chrétiens l'ont fait, l'ont expérimenté. Quand une église, vous savez, on parle des problèmes, qu'on est submergé par nos problèmes, mais c'est vrai qu'il faut prier pour nos problèmes. Mais il ne faut pas non plus rester centré sur nos problèmes. Il faut continuer à garder la vision que Dieu a demandée. Dieu a dit, voilà, nous appartenons à Dieu, maintenant nous marchons avec Dieu, il y a des études publiques pour nous faire grandir. Alléluia! Il y a des moments de prière pour nous rapprocher de Dieu, pour être libérés, pour remporter des victoires, etc. Mais la première mission des chrétiens, c'est aussi d'avoir un cœur pour témoigner que Jésus est le Seigneur et qu'il est venu pour sauver l'humanité. C'est ça. Je reviens au verset, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le texte nous apporte une dimension plus importante encore. Il fait part de ses remerciements. L'auteur précise maintenant la cause de cette action de grâce. Le motif de la reconnaissance, c'est de la part que les Philippiens prennent à l'évangile. Et le mot koinonia, ce mot est souvent traduit par communion. Alors, entre le leader et l'Église, parce qu'ils sont unis dans quoi ? Il y a une communion, pourquoi ? Parce qu'il y a une unité dans le fait de proclamer l'Évangile. Mais Paul est loin, et l'Église est d'un autre côté. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont unis en esprit, dans le même but. Voilà pourquoi l'apôtre exprime sa reconnaissance. Il est rempli de joie parce que il sent que cette église et le rapport qu'il a de l'église est formidable. L'étude nous montre que c'est parce qu'ils participent à la proclamation de l'évangile qu'ils sont en communion. Paul d'un côté et l'église de l'autre. C'est ça qui les unit. C'est formidable, n'est-ce pas? Le désir d'apporter l'évangile, c'est ce qui nous unit. D'ailleurs, c'est ce qui commence à nous unir, les églises du Namurois. C'est parce que nous commençons à avoir un but unique, la proclamation de l'évangile, que quand nous commençons à prier ensemble, que quelque chose se passe. D'abord, ça se passe entre nous, mais nous sommes convaincus qu'avec persévérance, que ça va porter des fruits dans le futur. Vous comprenez, c'est un pacte qui est en train de se faire. Ça commence doucement, bien sûr, mais la dernière fois qu'on a prié, c'était ici, je crois. Hein. Et ben, c'était formidable. Moi, je me suis réjoui. Oh, nous n'étions pas 200, c'est vrai. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, c'est pas le nom qui compte, c'est la qualité. Hein. Bon, c'était les meilleurs qui étaient là ce jour-là. Vous étiez là, c'était super. Mais j'étais là aussi. Hein. Mais on était unis ce jour-là. On était unis. Il y avait une communion. La communion qui les unit. Comment ne pas penser? Comment ne pas penser à ce texte qu'on prend parfois pour introduire la Sainte-Cène? Dans 1 Corinthiens 11, le verset 14 à 17. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Le repas du Seigneur prend une dimension plus importante encore lorsque nous réalisons la communion, l'unité qui nous rassemble. Bien sûr, nous savons que c'est parce qu'il nous a sauvés que le sacrifice, Jésus est venu pour cela, parce que nous avions besoin d'être sauvés. Mais regardez ce qui se passe. Au travers le sacrifice de Jésus, nous sommes unis au Père, au Fils, au Saint-Esprit et à l'Église qui a la même vision du salut de toutes les âmes. Mais même dans le repas du Seigneur, il y a encore cette vision. Bien sûr, que la projection qu'il y a des âmes qui sont à sauver. Bien sûr, on se fait du bien. On se mémore que Jésus a ce qu'il a fait pour nous. Mais nous sommes en communion avec tous les rachetés du monde. Mais il y a aussi une perception, une projection, des âmes qui sont encore à sauver. Vous voyez, l'image du salut est toujours là. Elle transcende dans toute la parole de Dieu. Et dans cette épître, elle est très forte, elle est marquée. Extraordinaire. Et l'apôtre, il insiste, il dit, oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour, écoutez bien, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Leur ardeur ne s'est pas relâchée. L'œuvre de Dieu accomplie dans leur cœur s'inscrit dans la durée. Et Paul rend grâce à Dieu pour cela. C'était pas un feu de paille. L'expérience qu'ils ont fait au début, ça continue. Et l'Église grandit, et l'Église va de l'avant. Elle grandit en maturité. Et j'en suis persuadé, dit-il, celui qui a commencé en vous cette œuvre, il la continuera jusqu'au jour de Christ. Tels sont mes sentiments envers vous. Tels sont mes sentiments envers vous. L'apôtre, il se laisse aller ici. On trouve un autre regard du caractère de Paul. Hein, je vais lire le verset complètement. Tels sont mes sentiments envers vous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Ainsi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'évangile et que je l'établis fermement. Vous voyez, souvent, nous pasteurs, quand nous faisons les études bibliques, nous disons, vous voyez, l'apôtre, oui, sur la doctrine, il est ferme, hein, il chipote pas, hein. Faut pas chipoter avec la doctrine d'ailleurs. Même nous, on n'a pas le droit de chipoter avec la doctrine. Ce que la Bible dit, faut le croire. Et c'est comme ça. Mais on a souvent dit, oui, l'apôtre Paul, il est dur avec les femmes, hein. Bon. À Namur, si je dis ça, j'entends des réactions tout de suite. Bon. Ici, vous êtes sage. C'est bien. Vous n'en pensez peut-être pas moins, mais enfin, c'est autre chose. Mais, toujours est-il que, nous voyons ici, alors il va dire, oui, au verset 8, il dit oui. Dieu m'en est témoin, je vous aime. Tous de l'affection, la Louis II dira, de tendresse que je vous porte. De tendresse. C'est un autre regard de Paul qui s'exprime, n'est-ce pas? Alors, voici ce qu'il dit, bien plus. Après avoir évoqué le passé et le présent, le regard se tourne vers l'avenir. Et il dit jusqu'au jour de Christ. Donc, il a rappelé le jour de leur conversion. Et nous nous rappelons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais celui qui a commencé cette œuvre nouvelle, eh bien, c'est celui qui la poursuivra, dit-il. Ainsi, comme Dieu veille sur sa nouvelle création, il veille aussi sur sa nouvelle création qu'est l'Église de Philippe, malgré les difficultés qu'elle traverse également. L'affirmation de Paul est donc également un encouragement à tenir ferme jusqu'au jour de Christ. Ce jour ne suscite pas un jour de terreur comme le jour de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, c'était un jour de terreur. Mais ici, il est question du jour, le jour de Christ. Le jour de Christ est attendu avec joie et impatience. Il marque la rencontre avec son Seigneur d'une Église rendue irréprochable. Je m'excuse pour l'heure, hein, je n'ai pas regardé. Comment? C'est pas grave. Je m'excuse, hein, mais le problème, c'est que si je mets ma montre là, j'oublie que je l'ai mis là. Si je regarde l'heure là, j'oublie quand le moment que j'ai regardé l'heure. Donc, il y a toujours un problème. Mais voilà. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai pensé que je voudrais redécouvrir, même pour moi, en préparant cela. Comment se fait-il que les premiers chrétiens étaient si ardents d'attendre le jour du Seigneur? Vous savez, c'est extraordinaire. Quand on regarde les évangiles, quand on regarde les épîtres, pardon, et d'autres, eh bien, les premiers chrétiens, et on le voit dans le premier siècle qui a suivi, hein, eh bien, quand ils étaient persécutés d'une façon extraordinaire, ils entendaient le retour du Seigneur, ou bien vivre avec Dieu, il y avait une dimension extraordinaire. Aujourd'hui, cette attente n'est plus vécue de la même façon. Oui, on le sait, que si Jésus va revenir, on le sait, tout ça. Mais si vous demandez aux jeunes, par exemple, est-ce que tu attends le jour du Seigneur? Oui, mais qu'il me laisse me marier, hein? Je voudrais bien connaître mon mariage, moi. Ou bien quelques années pour ma profession, savoir ce que je vais faire dans la vie, etc. Or, au fond, ce sont des choses légitimes, mais la priorité doit dire, oui, c'est pas être fanatique de dire, je voudrais connaître le jour du Seigneur, le jour de Jésus, qui vient me chercher, ou bien que je le rencontre. C'est ça qui est extraordinaire. Et que la Bible, c'est vrai qu'on devrait peut-être apprendre plus de ce qui se passera quand dans le ciel. Mais une chose, il y a très peu, là, je fais pas une étude, hein, mais il y a, dans Jean 14, 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, dit Jésus. Et ça, c'était déjà une affirmation. Les disciples savaient, la transmission avait déjà été faite. Et dans l'Apocalypse, nous savons une chose que les tout premiers ne savaient pas, mais nous le savons. Dans Apocalypse 21, il essuiera, quand nous serons dans le ciel, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit ces paroles, car elles sont certaines et véritables. Alléluia. Et il faut ajouter, pour ceux qui connaissent un peu la louange, on va ajouter à la louange au cœur des anges, etc. C'est formidable. On devrait connaître plus sur le ciel, sur ce qui nous attend. Ce souci des choses de la vie, qu'est-ce qui va se passer, gouvernement Michel, la NVR derrière, hein, on se préoccupe de tout ça, mais on se préoccupe très peu pour les choses du ciel. Alors que c'est ce qui est le plus merveilleux qui nous attend. C'est parce que là, c'est l'éternité. Alléluia. Paul n'est pas habitué à exprimer, revenons à cette expression de tendresse, et parce que je vous tiens dans mon cœur, Paul n'est pas habitué à exprimer des confidences aussi marquées, mais elles sont sincères. Mais il est juste de les exprimer puisqu'il les aime, eux qui participent à la même grâce que lui. En donnant la raison de ses dispositions à leur égard, parce que je vous tiens dans mon cœur, il montre combien son attachement pour eux est profond. Alors je vais passer quand même certaines choses. Tout est important, bien sûr, quand on prépare, mais je voudrais pas abuser non plus. J'arrive à la conclusion. J'ai passé volontairement un fait très marquant par rapport à l'église de Philippe, aux Philippiens. C'est son origine. Je l'ai fait volontairement. J'aurais pu le mettre dans mon introduction, mais j'ai préféré le mettre à la fin. Dans Acte 16, nous allons lire ceci. Je vais vous aider quand même dans la compréhension. Nous savons que le point marquant est que Paul était en route vers l'Asie pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais il fut arrêté par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Paul est un missionnaire, donc c'est normal qu'il pense que s'il va dans une direction, commencer une nouvelle église, ça fait partie de son ministère, ce qu'il fait. C'est normal, n'est-ce pas? Mais voilà, nous allons lire un événement marquant. Acte 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas encore. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà le fait marquant. Bien sûr, toutes les églises que Paul a fondées, c'était dans le plan de Dieu. Mais elle laisse un enseignement extraordinaire pour nous croyants, pour nous serviteurs de Dieu. L'église de Philippe et des centaines d'hommes et de femmes et de serviteurs de Dieu, lorsqu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit, vont voir des choses merveilleuse se réaliser. Je ne suis pas étonné de voir cette église de Philippe si extraordinaire. Parce que elle était précisément dans le plan de Dieu. Elle faisait partie du cœur de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul est arrêté? Il n'était pas pour d'autres églises. Mais là, il est arrêté plusieurs fois. Il est arrêté, l'esprit, et j'aime bien quand il est dit, l'esprit de Jésus ne permit pas qu'il aille de l'autre côté. Mais alors, dans la nuit, il a une vision. Un Macédonien lui dit, secours-nous. Dieu connaissait qu'il y avait un grand besoin là. Et il dit, et Paul, il ressent tout de suite, c'est le cœur du berger qui dit, ah là, il y a un besoin. C'est là que Dieu veut que j'y aille. Allez, on y va. Je pose plus de questions après. Et alors, les portes se sont ouvertes. Et le fait qu'il a obéi au Seigneur, eh bien, son cœur maintenant se réjouit. Il ne le dit pas dans l'épître, mais certainement en prison, il aura dû se dire. J'ai quand même été heureux d'obéir au Seigneur. J'étais heureux d'obéir ce jour-là. J'ai tant de reconnaissance de cette église. Ils pensent à moi, eux. Parce que beaucoup d'autres églises qui l'ont fondée ne pensaient pas à Paul après. dans notre génération, il y a eu aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Je pense au fondateur, j'ai oublié son nom, je pense au fondateur de Jeunesse en Mission. Il a fait un travail, gloire à Dieu, extraordinaire. La bonne parole a été prêchée dans le monde entier. Une aide alimentaire a été apportée dans des zones incroyables. Des vêtements étaient distribués par le bateau. Je ne sais plus le nom, mais enfin, il y a OM et oui, enfin bon, tout ça s'est fait. Un travail colossal a été fait parce qu'un homme a écouté la voix de Dieu. David Wickerson a écouté la voix de Dieu et nous connaissons son ministère. Il y a Mère Teresa qui a dû écouter la voix de Dieu pour faire ce qu'elle a fait là. C'était extraordinaire. Il y a Claude Hood qui fait un travail extraordinaire au Canada et qui, je crois, c'est Haïti qui fait un travail aussi extraordinaire au niveau alimentaire, au niveau de secourir, de vêtements, de, pour qui dorment, etc. Partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de Dieu. Dans mon ministère, j'ai dû apprendre à être à l'écoute de Dieu, être obéissant à l'écoute de Dieu. C'est pas toujours facile. Mais une chose est sûre, c'est que, oui, Dieu m'a appelé au ministère. Ça fait 35 ans que je suis à Namur, à peu près. Mais dans mon ministère, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je vais juste donner deux, trois petits témoignages. Souvent, le Seigneur me réveillait la nuit pour prier pour des gens. Souvent, c'était des chrétiens qui étaient dans des grandes détresses que j'ignorais. Et le Seigneur me demandait de prier. Et parfois, dans la semaine, souvent d'ailleurs, dans la semaine, il venait vers moi et me dit, vous savez, dans cette nuit-là, j'étais dans une telle détresse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Mais moi, je savais, parce que Dieu m'avait réveillé pour prier. À deux reprises, une fois dans la même chose, Dieu m'avait réveillé. Et c'était une personne qui était dans une profonde détresse, une profonde souffrance, chrétienne, qui était au bout du rouleau, qui trouvait plus de solution, et elle préparait son suicide. Et Dieu m'a fait prier. Je savais pas pour qui je priais, mais je savais que je devais prier pour une personne. Et je savais l'heure. J'ai prié. Et dans la semaine, et ça, je remercie le Seigneur parce que ça fait du bien de savoir qu'on n'a pas prié pour rien. Je remercie le Seigneur parce que dans la semaine, une personne est venue me dire discrètement, vous savez, pasteur, je sais pas ce qui s'est passé. Dans cette nuit-là, à cette heure-là, je préparais mon suicide. J'étais à bout. Mais Dieu m'a fait grâce. À un autre moment, où je conduisais mon véhicule de travail, la pensée de l'esprit me vient et me dit, va à tel endroit. Maintenant, je quitte la direction de mon travail, je vais. C'était encore une autre personne. C'était dans l'après-midi, au début de l'après-midi, une personne qui était dans le même état que je viens de citer, qui avait tout préparé pour faire un suicide parfait. Quand même des chrétiens, ils arrivent parfois à des extrêmes souffrances et des incompréhensions. Et je suis loin de pouvoir juger ces personnes. Je me permets pas de le faire. Mais Dieu connaît ses enfants. Et il secourt ses enfants. Vous vous rappelez le texte que j'ai lu tout à l'heure au début? Oui, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Si moi je désobéis, Dieu ne va pas me remplacer pour ça. Faut faire attention, il y a du sérieux. Maintenant, je vais vous dire une chose honnêtement. J'ai passé une période de grande fatigue dans la vie, ça peut arriver. Et un jour, le Seigneur m'a réveillé. J'étais fâché. Et j'ai pas été content. J'ai râlé. J'ai fait une prière courte et pas beaucoup d'intensité. Je crois qu'elle n'est pas montée plus haut que le plafond de la chambre. J'ai remarqué que le Seigneur ne me réveillait plus. Quand j'en ai pris conscience, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce qu'il avait besoin de moi. Et qu'il savait qu'il me choisissait pour que je sois une aide pour ces gens qui avaient tellement besoin. J'ai demandé vraiment pardon à Dieu. J'ai crié à Dieu pour que je puisse être un outil à nouveau, malléable dans ses mains. Et Dieu m'a fait grâce de me réutiliser, parce que Dieu est amour et qu'il nous aime. Obéir, c'est pas toujours facile dans le temps, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est fidèle et que Dieu nous aime et que quand nous venons avec et que nous demandons sincèrement pardon, il agit. Gloire à Dieu. Et encore une dernière chose, dans la direction du Saint-Esprit, il y a, comme j'ai dit, il y a 35 ans que je suis pasteur à Namur, et vu mon état de santé, comment je pensais que j'ai formé, j'ai eu un pasteur, enfin, quelqu'un qui est venu à l'église, il a fait son stage, il est formé, j'ai eu un second pasteur, mais tout va bien. Mais le Seigneur m'a montré que mon temps se terminait sur Namur. Et ça fait un an et demi que je suis en cheminement et que j'ai réalisé que mon temps était fini. Mon épouse et moi, nous en avons conclu et je me suis entouré de conseillers. Et hier, le Seigneur nous a conduits. Je rappelle, c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies. Mais malgré que je n'ai pas une bonne santé, nous avons pris la décision avec l'aide du Seigneur, bien sûr, de remettre notre démission en tant que pasteur principal du temple protestant évangélique de Namur. Depuis hier, c'est fait. Et ça prendra cours le 30 juin 2015, le temps de mettre toutes les choses en place. Et je suis prêt à aller là où Dieu veut que j'aille. Je prends pas ma retraite, hein, mais je suis prêt à aller là où Dieu veut que j'aille. Pourquoi? Parce que je suis un serviteur de Dieu. Que j'ai une bonne santé ou une mauvaise santé, ça n'a pas d'importance. Je suis prêt pour entrer sur un autre champ ou bien une autre dimension du ministère, parce que c'est Dieu qui conduit nos vies. Frères et sœurs, ce que je vous dis, des petits témoignages comme ça, mais nous sommes tous concernés dans la vie. Même chose pour la direction dans votre vie, dans ma vie. Le Saint-Esprit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Pour un travail, si vous cherchez un travail par exemple, et que vous sentez que le Seigneur n'est pas d'accord, ne forcez pas. Beaucoup de chrétiens ont accepté du travail qui ont été la cause de leur chute. Beaucoup de jeunes ont pris des orientations d'études qui ont été la chute dans leur vie. Beaucoup de jeunes dont le choix d'un partenaire n'ont pas voulu écouter la voix du Seigneur. Et ça a été l'occasion de leur chute. Vous voyez, notre vie appartient à Jésus. Il faut abandonner nos droits pour aller au droit de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Vivre avec Jésus, c'est renoncer à nos droits pour permettre de rentrer dans la voie, dans les voies de Dieu. Ne résistons pas au Saint-Esprit. Si Paul avait résisté au Saint-Esprit, l'église de Philippe ne serait pas née. Oh, peut-être que vous allez dire, oui, mais l'évangile serait bien arrivé en Europe un jour ou l'autre. Ça, c'est un raisonnement vraiment primitif et qui n'est pas spirituel du tout. Dieu a un plan au temps marqué. Dieu a un plan pour toi au temps marqué. Quand c'est le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si Dieu te parle aujourd'hui, accepte ce qu'il te dit aujourd'hui. La conclusion, la reconnaissance de Paul pour l'église de Philippe est grande. Là où il y a un désir profond de servir le Christ et d'annoncer la bonne nouvelle, il y a toujours une communion d'esprit, une unité. Et ensemble, l'ensemble est couronné par l'amour du Christ. Servir dans l'obéissance, c'est ce qui nous tient unis, ensemble. Et dans tout ce que je viens de dire, je me tais, mais mon expérience, j'ai vu dans les missions d'évangélisation en Belgique et dans l'étranger, j'ai connu des églises qui avaient ce feu pour l'évangélisation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand l'église a ce feu pour l'évangélisation, il se passe des choses incroyables autour. L'église est bénie. Les problèmes se règlent. Je me souviens, on faisait une mission d'évangélisation à, je crois que c'était à Douai. Il y avait une sœur qui souffrait du dos et elle nous accueillait. À ce moment-là, je jouais de la batterie dans un groupe chrétien, hein, et on faisait une évangélisation, et cette sœur, on dormait sur des matelas dans toute sa maison. C'était terrible. Elle souffrait du dos, tout ça. Mais elle aimait le Seigneur. Elle aimait l'évangélisation. Et sans qu'on prie pour elle, le dernier jour, elle dit, mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai remarqué que je suis guéri. J'ai plus mal. Quand nous sommes dans le cadre de Dieu, Dieu, il y a des choses qui se passent que nous ignorons, ou nous ne prenons pas conscience tout de suite. Mais, parce que le but premier, c'est l'évangélisation. Ne restons pas renfermés sur nous-mêmes. Mais puissions-nous être comme l'apôtre Paul, reconnaissant qu'il nous a sauvés, que nous travaillons ensemble pour le Seigneur. Faisons ce que nous pouvons, nous, que ce soit par l'informatique, pas. Je sais que maintenant les méthodes changent et tout. Bon, je commence à prendre un tout petit peu d'âge. Je suis pas trop vieux, je suis pas trop jeune. Peu importe. Il faut changer parfois les méthodes, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le cœur. De dire, Seigneur, je veux vraiment qu'il y ait des âmes sauvées. Ne pensons plus qu'à nous, mais pensons au monde. Allons prier un instant, si vous voulez bien. Alléluia, Seigneur.